Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Ce soir, le thème de cette émission, mon premier roman. Dans le studio, nous accueillons trois auteurs pour qui c'est vraiment le premier roman. Carole Forster.
Bonsoir.
Nathalie Malzac.
Bonsoir.
Et Jean-Claude Junin.
Bonsoir.
Voilà, deux hommes, une femme, comme si parfois dans les premiers romans, il fallait au moins deux hommes pour donner à un homme la possibilité de faire son premier roman. On reviendra tout à l'heure sur cette question. Et puis, nous avons un autre que je salue tout de suite, Joseph Giudiciani. Nom difficile à prononcer, vous êtes d'origine italienne, je pense.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà. Et Joseph, vous êtes écrivain et vous êtes en plus président du Cercle des écrivains de la Côte d'Azur.
Oui.
On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Merci.
Alors ce soir, le premier ouvrage, ce soir c'est le premier roman, est toujours un moment très fort dans une vie. Selon quel parcours, à partir de quel désir, face à quelle difficulté, un auteur produit cet ouvrage ? De l'idée d'écrire, de l'écriture, du manuscrit à la recherche d'un éditeur, et de savoir comment diffuser son ouvrage, d'écouter les résonances que les gens ont à la lecture. Voilà toutes ces questions que nous allons aborder après que chaque auteur ait présenté son ouvrage. Il y a en France, en fait, au moins deux festivals du premier roman. Celui de Laval, en Mayenne, qui en 2014 en sera sa 22e édition. Et celui de Chambéry, un peu plus ancien, qui en 2014 verra la 27e édition. Agora Côte d'Azur, de plus en plus reconnue au-delà de la région PACA, veut honorer ce soir ceux qui fêtent la naissance de leur premier roman. Alors on va commencer par vous, Carole.
Oui.
Vous avez écrit votre premier roman, Du temps avec elle, autour de trois personnages et d'une épreuve que les gens doivent vivre malgré eux.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors, expliquez-nous l'origine de votre livre et un petit peu la situation, sans dévoiler l'intrigue, bien sûr.
Donc, il s'agit d'un roman qui s'articule autour d'un fait divers, c'est-à-dire la mort d'une jeune journaliste, Julia Lewis, qui est retrouvée assassinée au pied de la fontaine des Éternels. Donc, les questions centrales que soulève le roman, donc évoque sans aucun doute le sens de l'existence, c'est-à-dire comment les êtres font-ils face aux épreuves et où trouvent-ils donc la force afin de se reconstruire. Et il y a aussi la notion d'espérance qui est permanente tout au long du livre, et celle de l'amour qui va jouer un rôle crucial dans le bouleversement que connaissent les protagonistes de l'histoire. Et la psychologie, justement, des personnages est aussi importante, car c'est elle qui nous guide et nous fait comprendre, au fur et à mesure, que la solidarité entre les êtres est une richesse sans commune mesure. Parce qu'il y a un humanisme qui sommeille en nous, et que cet humanisme est susceptible de se réveiller le jour où nous sommes tous plus ou moins confrontés à l'épreuve.
Vous résumez fort bien votre livre, encore mieux que je n'aurais pu le faire, et je ne peux m'empêcher, puisque Joseph a eu la délicatesse de vous faire une préface, ô combien méritée. Joseph insiste sur votre écriture rythmée par l'extase de votre grande sensibilité, par la profondeur et l'originalité de votre récit. C'est un livre très émouvant, et vous venez, je crois, de résumer un petit peu les bases, les fondements de toute cette épreuve autour de trois personnages. Mais dites-moi, Carole, vous aviez commencé des études d'histoire de l'art, un peu de communication, et tout d'un coup, vous avez la révélation que votre vie, c'est l'écriture.
J'ai eu un parcours classique, c'est-à-dire que dès l'adolescence, j'ai commencé à apprécier la littérature et la lecture, bien sûr. C'était pour moi un refuge, une ouverture sur le monde. Et j'ai commencé donc à écrire à l'adolescence. Et voilà, puis j'ai continué. Donc j'ai fait j'ai fait du journalisme en freelance, donc c'est l'écriture qui a pris le dessus quand même, et ça m'a pas empêché à côté de continuer à écrire au niveau littéraire. Et j'ai écrit des centaines et des centaines de textes, et puis un jour, je me suis lancée dans l'écriture d'un roman, tout naturellement, Ça me posait deux grandes questions. Je me suis lancée dans l'écriture d'un roman.
Et alors, vous avez présenté votre manuscrit à plusieurs éditeurs. Comment ça s'est passé?
Oui, comme tout le monde, je pense.
Oui.
Bien que ce soit, j'étais au courant que c'était un parcours du combattant. C'est l'autre facette du travail d'écrivain. C'est de diffuser, de trouver surtout donc un éditeur qui, donc les incertitudes, les refus et tout ça, je m'en doutais hein, que ça allait se passer, mais bon, malgré ça, bon, c'est vrai, comme tout le monde, j'ai eu quelques refus, j'ai eu de l'attente, mais j'ai eu le plaisir d'avoir une proposition positive de la maison d'édition d'Ovadia. Ce qui m'a fait très plaisir et donc bien que j'étais en attente d'autres réponses, j'ai fini par accepter parce que c'est quand même une maison d'édition qui a un rayonnement assez important puisqu'ils diffusent, ils distribuent les livres dans les pays francophones, au Canada notamment, en Belgique, en Suisse. Donc pour un premier roman, je voulais pas faire la difficile.
Au pays rêvé, c'est la maison d'édition qui en fait relève des éditions Ovadia. C'est bien ça.
C'est tout à fait ça.
Hein?
Oui.
C'est ça. Et alors, on attend un deuxième roman?
Oui, tout à fait. Donc, dans les mois à venir, donc c'est entre les mains de l'éditeur. D'ici quelques mois, normalement, il m'a dit la rentrée prochaine 2014. Donc c'est le prolongement de du temps avec elle. Donc on retrouve les principaux personnages. Et donc, il y a d'autres faits, un prolongement de l'enquête, du mystère, et toujours plus ou moins la même atmosphère, mais avec d'autres personnages en plus, et d'autres faits qui arrivent, et voilà.
Vous avez des échos, déjà, des lecteurs?
Pas tout à fait, ah ouais. Bon. Je vois que lorsque je participe au festival, il y a quand même un intérêt. Il y a un intérêt. Pour un premier roman, ça se vend plutôt bien. Et ce qui m'étonne, c'est au niveau des âges. Et les âges, bon, ça peut intéresser les adolescentes. Oui, j'ai vu. Et les femmes après 50 ans, ce qui m'a assez étonnée. Ou les hommes après 50 ans, et je ne m'y attendais pas. Parce que je pensais que ça intéresserait plus les femmes entre 20 et 35 ans. Et en fin de compte, ce n'est pas du tout la tranche d'âge.
On reviendra sur ce phénomène, je pense, à travers les deux autres auteurs après les 50 ans. Vous avez choisi un passage de votre livre et vous avez demandé à Joseph de nous le lire, je crois.
Oui, tout à fait. C'est le chapitre 3.
Alors Joseph, on vous écoute.
Avec plaisir. Donc d'abord un petit aphorisme qu'a écrit l'auteur elle-même. L'insouciance qui s'envole. C'est une étoile qui s'éteint. Je la trouve très belle, cette maxime, simple mais profonde. Donc, du chapitre 3, je vais lire une page et demie, et on pourra ainsi voir évidemment le style et la manière d'aborder cette écriture qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est vrai. Janice s'assoit sur un strapontin et se laisse bercer par le mouvement saccadé du RER en écoutant un classique de Patti Smith, Because the Night. Elle suspend un instant les souvenirs récents, les flashbacks qui embrouillent ses pensées, extinguent-la sur un îlot de décibels qui font corps avec elle. Le temps de rejoindre Châtelet à la station prochaine, elle décompresse, percée avec brusquesse dans ce souterrain, austère. Une fois sortie de cette prison étouffante de ferraille, elle regagne le grand air et erre un moment indéfinissable dans la fourmilière des rues parisiennes si glaçantes de solitude. Ayant une étrange idée derrière la tête, elle se faufile incognito dans un drugstore et ressort de là rapidement avec quelques achats dissimulés à l'abri des regards dans son sac à dos. Elle demande la revue des prêcheurs à plusieurs passants enfermés dans leur mutisme, puis une petite mamie l'aiguille avec un sourire de convenance. Elle se faufile dans un hôtel et prend une chambre. Là, dans la salle de bain spartiate, elle sort de son sac une boîte de coloration noire pour cheveux, ainsi qu'une paire de ciseaux. Après une longue hésitation et quelques trépignements enfantins, elle se met à couper ses longues mèches angéliques de façon à changer totalement son visage. Même si elle sait que cela est plus prudent, vu la situation qui l'accable, elle ne peut s'empêcher d'être en colère. et il lui faut s'y prendre à plusieurs reprises pour arriver à un résultat satisfaisant, quoique époustouflante, coupe courte au carré mi-long et avec frange. La coloration noire finit la métamorphose. La jolie jeune fille post-adolescente aux longs cheveux clairs qui donnaient à son visage une beauté et une douceur virginale laisse place dorénavant à une jeune femme effrontée, endurcie par la vie, avec cette coupe maladroite couleur corbeau. Elle est méconnaissable. Quand elle regagne son lit, elle s'effondre en larmes. L'enfance s'en est allée définitivement. Janice n'ose se regarder dans le miroir. Le changement est trop brutal, bien qu'indispensable à sa survie. Et puis, au fond, c'est provisoire, ça rassure-t-elle. Ses larmes, mêlées au mascara, ont formé comme des barreaux sur ses joues empourprées. La fatigue la mine et le dépassement de soi requiert des forces dont elle ignore si son mental est pourvu. Pourtant, elle le sait, ce n'est que le début.
Merci Joseph. Alors Carole, vous avez choisi une musique, celle de La Calasse, un extrait de La Calasse. Pourquoi ?
Alors parce que ça fait partie du livre. C'est un thème du livre que l'on découvre vers la fin. Donc je ne peux pas tout dévoiler le pourquoi. Je pense non. qu'on comprend puisque c'est en phase avec un des chapitres qui se trouve vers la fin. Donc je ne peux pas dévoiler le pourquoi.
Non,
comment je commence. Je comprends.
Surtout pas.
Le lecteur comprendra pourquoi j'ai choisi cette musique.
Alors nous allons écouter cet extrait de La Calasse et au fur et à mesure que la musique vient, je prends une citation que vous avez prise. Mmh. Vous avez de très très belles citations aussi. Qui regarde dehors rêve et qui regarde à l'intérieur se réveille. C'est à Nathalie. Bonsoir Nathalie. Vous avez fait un long chemin pour être dans ce studio et je vous remercie beaucoup pour parler de votre livre, votre premier livre qui est donc Les Plaines d'Abraham. On reviendra tout à l'heure sur ce titre. Alors vous êtes quelqu'un très engagé sur le plan de l'enseignement. Vous dirigez, je crois, une école primaire, c'est ça ?
Oui, c'est ça, une école primaire.
Vous avez deux enfants et tout d'un coup, vous vous mettez à écrire votre premier livre, en l'occurrence. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez été très marqué par le Québec. Racontez-nous un peu votre parcours avant de parler du livre.
Professionnel ou de vie ?
Ce que vous avez envie de dire.
Professionnel, c'est tout simplement la faculté avec des études linguistiques. Et donc, bien sûr, le professorat. Et ensuite, des voyages et des moments de vie de plusieurs années dans des endroits différents du monde.
Et alors, vous écrivez ce livre. L'idée vous vient quand ? Comment ça s'est passé ?
Mais déjà, j'écris depuis que je suis toute petite, des poèmes, enfin, plein de choses. Mais ça, de toute façon, ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas du jour au lendemain, à 30 ans, on se met à écrire. Non, ce n'est pas possible. Et en fait, il se trouve que je partais avec mon second mari et mon fils issu d'un premier mariage au marathon de New York. Et on laissait notre petite fille, qui avait quelques petites années, là, qui avait 5 ou 6 ans. Et là, je me suis dit, s'il se passe quoi que ce soit, on part tous sans elle. Qu'est-ce qui lui arrivera ? Donc en fait, le roman, c'est ça. C'est l'histoire d'une famille qui s'en va, laissant la petite. Et puis finalement, l'avion s'écrase. Et la petite reste toute seule. Donc, à qui cet enfant par qui sera-t-elle élevée ? Et en fait, mon second mari et moi, nous avions décidé que ce serait mon premier mari qui lèverait notre enfant, parce que c'était la seule personne qui nous paraissait être à même de l'élever et de lui apporter ce qu'on aurait voulu lui apporter. Et voilà, c'est l'histoire du livre, finalement.
Alors, le thème des les plaines d'Abraham, le titre.
Les plaines d'Abraham, c'est une plaine qui surplombe la ville de Québec. C'est un endroit absolument magnifique, sur lequel il peut y avoir des concerts, où on peut se promener en toute quiétude. C'est extrêmement beau et paisible.
C'est un lieu magique. Enfin, pour ceux qui connaissent le Québec, c'est facile à resituer. 103 hectares, puis surtout un moment historique où la France a perdu...
On a perdu le Canada en 20 minutes sur les plaines d'Abraham.
Ah, en 20 minutes.
20 minutes, parce que la France n'est pas venue soutenir les Français, alors que l'Angleterre est venue soutenir ses colonies.
Voilà, et donc c'est un lieu magique, c'est un lieu historique, et dans votre livre, il prend une autre coloration.
L'historique ne prend, n'est absolument pas, pas court dans le roman. C'est juste un lieu, c'est sur les plaines d'Abraham que la dernière fois, cette petite fille a entendu la voix de ses parents, puisqu'ils lui téléphonaient, et c'est un lieu dans lequel elle veut aller, elle veut se promener, elle veut retourner là-bas. Plutôt y aller, parce que retourner, non, elle n'y était pas allée. Et voilà, et en fait, oui, sa vie va se construire autour de ça. En fait, le roman, c'est surtout comment le père qui a perdu son fils et cet enfant vont arriver à se construire tous les deux dans une nouvelle vie alors qu'ils ne se connaissent pas.
Oui, c'est un livre tout à fait émouvant, mené rapidement, avec un style très très agréable. Votre passage au Québec a l'air de vous avoir marqué profondément.
Oui, je crois que toute personne qui passe au Québec ne peut pas faire abstraction. Après, si c'est terminé, on n'est plus du tout pareil quand on revient.
Et vous allez retourner au Québec ?
J'y retourne régulièrement, puisque nous avons beaucoup d'amis là-bas, et surtout des amis très forts. Mais oui, je compte bien m'y installer. Oui.
Un moment ou un autre ?
Je compte bien y finir ma vie, oui, bien sûr.
À ce point ?
Ah oui, à ce point-là.
Et les plaines d'Abraham vont avoir une suite en dehors de cette installation au Québec ?
Non, ce roman ne pourra pas. Non, c'est pas possible. La façon dont il se termine ne peut pas avoir
absolument,
de suite.
Absolument, oui. Donc vous allez passer à autre chose ?
C'est ça, c'est une page qui s'est tournée, oui.
Et alors, quelle est la page suivante dans laquelle vous allez nous emmener ?
C'est une trilogie adressée aux adolescents, puisque mes enfants sont adolescents maintenant. Et j'ai une fille qui est férue de fantastique et en fait, elle m'a amenée dans son monde, son univers. Elle m'a fait découvrir un univers fantastique. Et j'ai eu l'histoire, et voilà. J'ai eu l'idée d'une héroïne et c'est parti.
Alors, nous allons revenir vers vous, Nathalie, dans la deuxième partie, puis on va aborder le livre de Jean-Claude. Pour terminer cette première partie d'émission, eh bien, je propose d'entendre ce que vous avez choisi. C'est une chanson avec Ginette Renaud et Céline Dion, dont le titre est
Plus haut.
Plus haut, et qui est chanté sur les plaines d'Abraham en
2008,
devant 250 000 personnes. Écoutons. Passage de votre livre, si vous voulez bien. Et on gardera la musique en fond.
Jour 91. Samuel était à la sortie de l'école ce soir-là. Il parlait avec Anne. Elle avait l'air d'être fâchée contre lui. Mais quand on est arrivé avec Amy, elle a fait comme si tout allait bien. Mais ce qu'Anne ne sait pas, c'est que sur son visage, on peut lire tout ce qu'elle pense. Là, je voyais bien qu'elle était en colère. Pourtant, elle m'a serré dans ses bras longtemps. Son câlin était presque aussi doux que celui de ma maman. Presque. « Vous venez manger à la maison demain soir, n'oublie pas. » Quand elle a dit ça, son doigt touchait le torse de Samuel. Amy et moi, on s'est regardés et on a fait des grimaces de joie. Ce sont nos grimaces à nous quand on est heureuse, comme un signe. Une fois, j'ai essayé de les faire devant un miroir, mais je me suis trouvée si laide que j'ai eu honte. Je tourne toutes les pages blanches, après celle-là, et je me demande ce qu'il y aura écrit dessus. Je suis sûre de plusieurs choses. Le nom d'Amy sera partout. Je parlerai de mon amour pour toujours de mon papa, de ma maman, de Tim... Je raconterai peut-être des moments passés avec eux là-bas, chez moi. Peut-être qu'un jour, j'en serai capable. Je te décrirai ma maison, la vraie, ma vie d'avant. Peut-être qu'il y aura une auréole sur une page, comme la trace d'une larme, mais je n'y crois pas. J'ai tellement pleuré dedans que si les larmes avaient dû sortir, ce serait déjà fait.
Merci, chers auditeurs. Dans un instant, nous nous retrouvons, après les informations, pour continuer avec Jean-Claude et son ouvrage « La Cicérone » et pour engager à nous trois un débat sur le premier roman. Merci, à tout de suite. Écriture, nous poursuivons notre émission et ce soir, c'est mon premier roman. Nous avons vu le cas de Carole, le cas de Nathalie. Nous allons maintenant accueillir Jean-Claude qui est en studio. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Alors, un parcours d'ailleurs personnel absolument extraordinaire, venant d'Angleterre, d'une famille absolument hors du commun. Puis, vous vous retrouvez seul, abandonné, adopté par une famille de façon non plénière partielle. Vous n'êtes adopté de façon plénière qu'à 22 ans, un parcours absolument fabuleux qui vous prédispose quand même à quelque chose de fort. On se dit que un enfant qui vit ça, originaire d'une telle famille, avec un parcours comme vous avez, j'ose dire, a une chance absolument incroyable et se dit que qu'est-ce qu'il va faire de ça ?
C'est vrai, c'est une chance. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Même si c'est un humour un peu décalé de dire ça quand on vit des moments difficiles, j'ai eu ce que je suis aujourd'hui, je le suis grâce aux événements que j'ai vécus. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'écrire ce livre.
Je reviendrai dans une autre émission sur un thème qui m'est cher, du chemin faisant des gens, enfin, ou de la trajectance. Mais on va parler du chemin faisant. La trajectance est un mot peu connu. Mais je suis convaincu que ce qui est fondateur dans une vie, c'est son chemin faisant, enfin, et celui qui fabrique tout. Alors, vous nous livrez comme premier roman La Cicérone, Éléonore. Grosso modo, alors, si on commence le quatrième de couverture, j'ai trouvé que c'était très synthétique. On voit le décor planté. Depuis 2000 ans, l'église de Pierre livre un combat comme un fratricide d'une rare violence contre l'église de Marie-Madeleine. L'enjeu, le pouvoir absolu de l'homme sur la femme. C'est ça votre base de départ?
Tout à fait. Tout à fait. C'est le mythe de Lilith. La femme originelle qui est aujourd'hui complètement désavouée par les églises parce que c'est la femme qui dérange. La femme égale de l'homme. Même moi, ça me fait rigoler. Bon, non, je plaisante. Quoique... Et c'est vrai que c'est un mythe qui... L'église de Marie-Madeleine a existé officiellement jusqu'au IVe siècle. Après, elle a été complètement phagocytée par l'église de Pierre. Donc la société patriarcale a pris le dessus sur le modèle matriarcal. Et je voulais bâtir un roman en me disant que la femme a quand même toute sa place. Et ce serait bien que ce soit pas qu'un roman, qu'elle revienne à la réalité.
Vous avez fait beaucoup de recherches historiques pour écrire ce livre?
Beaucoup, parce que je voulais quand même que même si c'est un roman, je voulais que les bases soient fiables. Donc alors, évidemment, au niveau de la chronologie, comme ce roman se déroule sur un an, c'est difficile. Uh-huh. Donc les puristes ne me tiendront pas rigueur, il y a un petit décalage d'une trentaine d'années. Mais j'ai toujours essayé que tous les événements ont vraiment eu lieu entre 1680 et 1710.
Dans la région de Grasse.
Dans la région de Grasse, parce que étant grassois et pour un premier roman, c'était un petit clin d'œil. Mais par contre, la suite se passera au Puy-en-Velay, en Auvergne.
Carrément. Et alors, la saga qui continue, à combien? Ah oui. Un autre livre, deux autres livres?
Si tout se passe bien, symboliquement, ce serait bien d'en faire sept.
Sept.
Voilà.
Choisissez un chiffre symbolique. Ça pourrait être neuf une fois parti, ça parce que neuf, c'est pas mal aussi.
Voilà, c'est sûr. Sept ou plus, dirons-nous.
Ouais, c'est un livre absolument passionnant. Il se lit très très vite. Il est bourré, truffé d'anecdotes, de faits absolument incroyables. Et on voit quand même que sur le plan des évangiles ou de l'apocryphe de Marie-Madeleine, l'évangile apocryphe, vous l'avez lu et relu, vous en êtes totalement imprégné, non?
Ah oui, oui, parce que moi c'est vraiment un texte qui me passionne, parce que je pense que aujourd'hui je suis complètement agnostique. Hein. Donc moi, je respecte l'engagement religieux des uns et des autres, mais personnellement, je ne crois pas. C'est vraiment le pouvoir des églises qui me façonne, quelles que soient les religions. Et c'est vrai qu'on peut pas écrire un tel sujet si on n'a pas lu. Et les évangiles de Marie-Madeleine sont, à mes yeux, c'est les plus beaux. Et c'est vraiment dommage qu'on se contente des quatre évangiles aujourd'hui.
Il commence à la marge à être de plus en plus connu, mais rien à voir, bien sûr, avec les quatre évangiles. Il a vraiment été évacué.
Complètement, oui.
Mais à travers ce pouvoir entre Pierre et Marie-Madeleine, c'est un enjeu mondial, cosmique, humain que vous posez.
Complètement, parce que c'est... Alors, je veux pas que m'attirer les foudres, mais il y a certaines religions aujourd'hui où le rôle de la femme est vraiment mis complètement à l'écart. Et c'est vrai que c'est un cri vers certaines personnes qui ont tendance à oublier que sans la femme, l'homme n'est rien. Et la couvrir et la ridiculiser par des tenues, la vilir et la réduire au rang d'esclave, moi, honnêtement, ça me fait zire.
Vous avez envie, Jean-Claude, de nous lire un passage de votre livre ?
Alors, c'est un petit passage un peu particulier, mais qui va refléter un petit peu l'ambiance du livre. Cependant, à quelques mètres de là, deux hommes habillés tout de noir rageaient silencieusement. Le plus âgé d'entre eux s'adressa à son compagnon sur un ton rempli de haine. « Comment se fait-il que les chevaliers de l'ordre soient là, Averam ? Tu m'avais assuré qu'ils ne seraient que trois. Tu es un incapable. À cause de toi, j'ai perdu 10 de mes braves aujourd'hui. » »« Mais je vous assure, cardinal, mon espion au château était formel. Ils n'ont reçu aucun renfort ces derniers jours. Et comme je l'avais ordonné, il a inspecté les alentours pour vérifier qu'il n'y a pas un camp des chevaliers de l'ordre dans les environs. » Heureusement que j'ai un homme à moi dans leur pseudo-abbaye. Ces impies ne parviendront pas à leur perfide projet, et cet enfant, fruit de deux hérétiques, sera sacrifié par moi selon la coutume ancestrale. Nous sommes des zélotes, et une fois le sacrifice effectué, la pureté régnera de nouveau entre les hommes de bonne volonté. Mais nous devons absolument l'égorger sur l'autel des serments alors qu'elle est encore vierge. Nous devons empêcher à tout prix, même au prix de notre vie, qu'elle puisse s'enfanter et pérenniser sur la terre la présence de ces femelles insatiables de perversité.
Je crois que ça donne bien l'esprit du livre, hein, Jean-Claude.
Non. Donc là, on est vraiment dans Lilith. C'est vraiment l'image que la religion a voulu donner de Lilith, la femme perverse dans toute...
Combien vous avez mis de temps à écrire ce livre, Jean-Claude ?
En temps d'écriture pure, ça a été rapide. Ça a été plus de 9 mois.
9 mois seulement pour écrire ce livre.
Oui.
C'est un score.
Mais je serais tenté un petit peu comme Picasso qui toujours faisait un croquis sur une nappe et le journaliste lui disait, c'est connu, mes maîtres, en 30 secondes, vous dessinez un tableau qui peut valoir des... Picasso lui a répondu 30 secondes et 50 ans. Et là, je serais tenté de dire, c'est 2 mois et 57 ans.
Alors, ça me conduit d'abord à poser une question à chacun d'entre vous. Vous entrez dans le monde des écrivains, votre premier roman est une carte de visite, et Dieu qu'elle est singulière dans chaque cas, pour chacun d'entre vous. Quelle est ce soir, comme écrivain, l'idée force qui vous habite, que vous voudriez transmettre, au-delà de toutes les variations possibles et imaginables des livres que vous allez écrire ? Alors, qui prend la parole ? Après ce qu'il a dit de la femme, Jean-Claude, ça ne peut être que Carole et Nathalie.
Donner un conseil ou donner
non,
une idée
comme idée force, qui vous habite, ce que vous avez envie de transmettre, au-delà de toutes les variations de livres que vous voudriez écrire. Vous en avez parlé un peu au début.
Envie de transmettre, c'est surtout, pour moi, l'écriture sur une passerelle. C'est une passerelle, une ouverture pour le lecteur vers un autre monde. Je voudrais que le lecteur, il puisse quelque chose qui puisse après l'aider s'il en a besoin, ou un peu oublier les blessures de la vie s'il en a, ou le distraire s'il en a besoin. Mais voilà, déjà je trouve que c'est déjà important.
Bien
si
sûr.
Ça peut apporter tout ça.
Et vous, Nathalie ?
Je pense pas vouloir transmettre. En tout cas, je pense que je ne serais pas capable de transmettre. Quelque chose qui puisse amener la personne à réfléchir sur un sujet compliqué. Enfin, si on parle du roman que je viens d'écrire, ça serait plutôt arriver à dépasser un état difficile, parce que je sais que ça a pu aider certaines personnes à le faire, parce que ça a remué beaucoup de choses, parce que ça, on est toujours pris par ce genre d'état. Mais après, je ne sais pas, parce que le reste, ça sera... Le prochain roman, ça sera une trilogie fantastique, donc ça serait plutôt Oui, divertir tout simplement l'enfant, l'adolescent, l'amener à lire parce que nos enfants ne lisent plus, ils jouent sur des jeux vidéo et je trouve ça abominable.
Jean-Claude ?
Alors moi, étant un humaniste engagé, c'est évident que à travers le livre, c'est avant tout un message d'amour et de fraternité que j'essaie de faire passer. Et c'est vrai que je suis également enseignant et c'est toujours désolant de voir ces enfants qui ne lisent plus. Ça, c'est une grande, grande tristesse.
Joseph, comme président du Cercle des écrivains, comment vous réagissez? Quels sont les types d'auteurs que vous rencontrez et quels sont vos projets à partir d'une structure comme celle que vous présidez?
Je voudrais déjà dire qu'ici, nous sommes dans une mouvance où l'exaltation de la littérature nous conduit à cette réflexion selon laquelle, Jean-Claude en parle très bien également de son humanisme, Carole et Madame également, mais ce que je voudrais dire, c'est que la littérature est une fenêtre ouverte sur le monde, sur l'univers. Cette fenêtre, elle est de nature à nous émouvoir, à nous émerveiller, et à aller vers la découverte. Le Cercle des écrivains est né de ce postulat. Comment transmettre à un moment où, en effet, la jeunesse ne se passionne plus pour la lecture et à trouver des moyens palliatifs pour aller vers des jeux synthétiques, parfois virtuels, parfois dangereux d'ailleurs. Donc c'était ça le postulat, amener les jeunes dans cette mouvance littéraire au cours de laquelle on voulait promouvoir tout à la fois le talent, récompenser les bonnes volontés, et puis intervenir dans les écoles, et puis donner des conférences, et puis coaguler autour de nous des gens d'horizons divers, mais ayant le même regard que nous sur la littérature, de créer cette sorte de synergie, une osmose, autour de laquelle on voulait valoriser à la fois le mot, l'écriture et l'univers vers lequel nous devions nécessairement aboutir. Un univers, soit dit entre nous, qui est aussi une infinitude. Pourquoi ? Parce que la littérature, évidemment, elle ne se limite pas seulement aux faits, disons, quotidiens, aux faits terrestres, elle va bien au-delà. Bien au-delà, et quand je dis elle va bien au-delà, en fait c'est une métaphysique existentielle que nous cherchons au travers de la littérature. Et donc le Cercle des écrivains se proposait d'aller vers ça. Nous avons eu un premier président d'honneur qui était Raoul Mille, trop tôt décédé d'ailleurs, et cette inspiration je l'ai eue avec l'UNICERA, je l'ai rencontré lors de mon premier livre. L'UNICERA est un écrivain d'histoire par excellence, qui est reconnu, réputé. On a fait une médiathèque, la médiathèque de Nice, qui est aussi à vocation régionale, à son nom. C'était un homme d'une extrême simplicité, mais d'une grande sagesse. Et j'aime les hommes de grande sagesse.
Jean-Claude, vous avez organisé pour la première fois à Grasse un salon du livre qui a fort bien marché, qui a été très apprécié. Vous recommencez en 2014.
Ah, bien sûr. Bien sûr, c'était un grand succès. Ce que nous avons créé avec mon ami et complice Jérôme Viau, nous avons créé une association qui s'appelle Les Passeurs de Livres, où nous faisons des bibliothèques de rue, donc des petits meubles un peu partout dans la rue, avec des livres à disposition 24 heures sur 24. On a lancé le premier salon du livre dans une galerie marchande d'un centre commercial. Au début, ça a surpris, mais Carole et Joseph étaient... ont participé et je pense que ils étaient très heureux puisqu'ils sont déjà inscrits pour l'année prochaine. Oui. Donc le prochain salon aura lieu le 19, 20 et 21 décembre dans la galerie du Centre Leclerc. 75 places, il y en a déjà 54 de réservées. Donc ça ira très très vite et c'est vraiment un très grand succès parce que on continue dans notre optique où on amène la culture dans la rue, on amène la culture vers les gens. On ne demande pas aux gens d'aller vers la culture. C'est vraiment notre démarche première.
Je crois que c'est les nouveaux passeurs, c'est les nouvelles modalités. Le livre quitte la librairie où la librairie est trop petite pour l'avoir et on le voit circuler sur les marchés, dans des soupes aux livres, parfois des soirées que certains éditeurs font et d'autres activités, ce qui est quand même assez extraordinaire. En tout cas, rappelez les dates pour 2014 parce que c'est des dates à retenir.
19, 20, 21 décembre, galerie marchande du centre commercial Leclerc à Grasse, mais de toute façon, je sais que Agora FM me recevra et participera comme elle a déjà participé.
Et retenez de Jean-Claude alors son livre La Cicérone, c'est un livre absolument passionnant, un livre d'histoire qui pose une question fondamentale entre Pierre et Marie-Madeleine, mais au-delà, une question bien plus essentielle à toute l'humanité et à toutes les religions. Nathalie, votre livre « Les plaines d'Abraham » mérite un grand succès et j'espère que vous sortirez votre prochain livre prochainement. Vous avez un projet ?
Il est en cours d'écriture.
Cours d'écriture, et vous pensez qu'il arrivera pour les vacances ou après ?
Pour les vacances, les grandes vacances ?
Oui.
Oh non, c'est un peu compliqué.
D'accord.
Oui, ça sera, je pense, après.
Fin 2014, début 2015.
Certainement, oui.
Et vous, Carole, le livre va sortir pour le Salon du Livre, vous ne pouvez pas faire autrement.
Sûrement, peut-être, probablement, je pense, j'espère.
Voilà, chers auditeurs, cette émission se termine. Demain soir, elle sera consacrée à la micro-histoire, avec une interview tout à fait inédite d'Antoine Pross, qui est un grand historien, beaucoup trop méconnu, mais nous aurons l'occasion d'en parler demain soir, avec lui et avec deux autres écrivains. Pour terminer cette émission, j'aurais seulement vous donner deux ou trois phrases et voir comment vous, vous réagissez dans ce studio. Alors, je vous les cite d'abord, puis je vous laisse après finir. Vous pouvez devenir écrivain, mais il faut être auteur. Robert Sabatier, écrire c'est lire en soi pour écrire en l'autre. Et puis cette phrase de Louis Lavelle, que j'adore personnellement, mais aussi comme auteur, le propre de l'écriture c'est de capter l'éternel dans le temporel, c'est-à-dire de nous obliger à nous porter nous-mêmes dans le temps au-delà du temps.
C'est très belle.
Voilà, Nathalie, Carole, Jean-Claude, vous avez envie de réagir ?
Alors moi je réagirais écrivain-auteur. Je me considère écrivain, mais par contre, je pense que j'ai absolument pas la capacité, la compétence pour être auteur. Je pense que auteur, c'est quand même largement au-delà de mes compétences. Pour
l'instant. Alors, je dirais sous forme de boutade, Jean-Claude, que malgré vous, vous êtes sur le chemin de l'auteur, puisque vous êtes autorisé à écrire le premier roman, et que s'autoriser, c'est inévitablement devenir auteur. Nous allons écouter notre générique et nous allons vous quitter, chers auditeurs. Merci Carole, merci Nathalie qui est venue de très loin.
Merci
à Jean-Claude. Voyez, le premier roman se porte bien. Voilà trois beaux témoignages et des témoignages pour écrire. Et vous attendrez un tout petit peu pour être auteur, selon la recommandation de Jean-Claude. La première marche, c'est l'écrivain.
Merci Michel.
Merci beaucoup.
Merci. Belle soirée et à demain soir.
Merci.
Merci à vous.